Donc, c'est là, justement, que j'ai été mis au courant que Webflow commençait à exister, qu'ils ont commencé à le pousser. Quand il venait de sortir, j'avais mes réservations parce que, un autre Squarespace, un autre Wix, un autre Weebly. Mais là, il disait comme, c'est plus pour les designers, développeurs. Donc, ça va un peu plus loin. Comme. Là, 2 ans, 3 ans plus tard, là, je continue à le voir. Puis là, même les développeurs que moi, je suivais pour la programmation, commençaient à l'utiliser pour leurs projets perso. Comme. Même pour les projets perso. Ouais, c'est ça. Et comme des développeurs qui ont toujours juré que par du code, maintenant utilisent Webflow pour leurs projets perso. Donc là, je commence à regarder. Puis, OK, je comprends.
Sans Serif, le podcast sans prétention qui t'amène dans les coulisses d'une agence de création.
Ça commence maintenant.
Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Janie Dano, je suis ici pour l'animation du Sans Serif podcast avec Marc-André Julien, un habitué.
Bonjour, bonjour.
Kevin Loyer.
Bonjour.
Et Andrés Flores, bonjour. Un invité spécial aujourd'hui. J'ai très hâte d'apprendre à vous connaître toutes les deux. Aujourd'hui, on va parler de conception de sites web, des nouvelles plateformes émergentes. On va parler de programmation ou plutôt de no-code, les nouvelles avenues qui s'offrent à nous ou qui s'offrent plutôt aux développeurs, aux designers web et... à tous ces jolis petits garçons qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, Kevin, Andrés, c'est la première fois qu'on vous a avec nous sur le podcast. Kevin, j'aimerais que tu te présentes.
Moi, dans le fond, ça fait à peu près 2 ans que je travaille ici comme développeur, designer web. Puis, j'ai étudié à l'Université Laval en design graphique. J'ai fini en 2020. Puis ensuite, j'ai travaillé à Sherbrooke, puis je me suis revenu ici.
Fait que faire un petit topo rapide, je pense qu'on va parler un petit peu plus du web tantôt. Fait que
oui.
Je vais laisser ça là-dessus.
Super, merci beaucoup. Andrés?
Yes. Donc, salut, moi c'est Andrés.
Oui.
J'ai 29 ans, ça fait 8 ans que je suis développeur web. Et mon parcours a été assez divers. Intéressant, en fait. Donc, je n'ai pas de formation précise, je n'ai pas de bac en informatique ou quoi que ce soit. J'ai une technique en micro-édition et hypermédia. Si ça ne vous dit rien, c'est normal.
OK, parfait.
Donc, et ensuite, je suis allé à l'Université de Montréal pendant 1 an. J'étais étudiant libre. J'ai juste pris des cours de programmation, donc le classique HTML, CSS, puis programmation d'autre chose, juste pour me mettre dedans puis d'avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est la programmation.
Là, tu commençais en programmation.
Oui, c'est ça.
OK.
Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans des agences en tant que développeur, donc autant du Wix, du Weebly, du WordPress, du custom, vraiment de tout.
Hey, c'est toutes des affaires qui... je sais de quoi tu parles, là.
OK, parfait. Puis là, c'est ça, là, je transitionne vers les outils no-code. Puis justement, on va aller plus profondément là-dessus plus tard. Donc, voilà.
Super. Marc-André, un habitué de l'agence. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la vision de tout ça chez Nabi. Comment vous avez emboîté le pas? C'était quoi vos débuts, notamment en programmation? On s'entend, là, Nabi, à la base, c'est une agence de création, une agence de conception de site web. Qu'est-ce qui a fait... un petit mot d'intro, là, vous avez adopté les outils de no-code. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, bon, ben on va aller de l'avant avec ça plutôt que de continuer d'engager des programmeurs selon la méthode classique?
Ben, en fait, on a pris le chemin, je vais dire, classique au départ. Quand on a fondé Nabi, c'est sûr qu'on voulait offrir, disons, le plus de services possible aux clients. Dont les sites web. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, moi, mon expérience, j'étais justement dans les agences de web avec un modèle, je vais dire, classique, là, un designer qui faisait les maquettes. On passait la POC à un développeur qui mettait ça en vie. Donc, c'est sûr que moi, j'ai reproduit ça. Puis c'est, je dirais, à l'année qu'on avait commencé l'agence, c'était ça qui était de mise. Là. Les outils qu'on a présentement n'étaient pas arrivés sur le marché ou on était vraiment au départ du marché. Fait que, dans le fond, moi, j'avais engagé un développeur. Puis, on a travaillé avec la plateforme WordPress pendant un bon moment là, avec nos clients. Moi, je m'occupais de faire les maquettes visuellement. Puis, en collaboration avec lui, ben, je lui donnais les maquettes. Puis, on s'arrangeait de faire la programmation. Je faisais une assurance qualité aussi donc sur les projets. Ça a duré pendant un an et demi. Puis, à son départ, là, je me suis retrouvé peut-être un peu les mains vraiment vides. Là, j'ai eu un point d'interrogation parce que j'avais perdu mon collaborateur. Puis, tu sais, j'étais vraiment comme, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'offre aux clients maintenant?
Mm-hmm.
Du jour au lendemain, là, il fallait vraiment que je trouve une solution à mon problème. Donc, j'ai eu des discussions avec Martin, avec Simon dans le temps aussi. Je remettais vraiment en doute le fait d'offrir la conception de site web puisque moi, j'ai pas un background de code. J'ai pas un background de développeur nécessairement.
Puis là, en fait, c'était quoi? C'était des enjeux de recrutement?
Bien, c'est sûr qu'un développeur, Andrés pourra aussi me confirmer, c'est sûr que tu sais, il y a un certain quand même prix de rattacher à ça. Mm-hmm. Pas juste pour le salaire, mm-hmm. mais il faut quand même être prêt à donner la charge de travail que cette personne-là peut prendre. Donc, mm-hmm. tu sais, il y a quand même un certain engagement aussi là-dessus.
Ouais.
Donc, durant l'été, là, j'ai vraiment essayé de chercher des solutions. Puis, sur Twitter, c'est là que j'ai commencé à voir certaines personnes qui parlaient de la plateforme Webflow, entre autres. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je connaissais la plateforme, exemple, Squarespace, qui est très user-friendly, qui offre des beaux thèmes, mais beaucoup plus limité pour ce que j'avais envie de faire. Là, parce qu'en fait, moi, je voulais transposer visuellement les maquettes que je faisais en site web, là, tu sais, fonctionnel.
Donc, là, quand tu parles, je m'excuse, Marc-André, quand tu parles de plateformes comme Squarespace, comme Webflow, ça, c'est des plateformes no-code?
Oui, parce qu'on dit qu'ils font un peu abstraction du code, tu n'as pas à en écrire et ils te donnent, on va dire, une interface visuelle plus facile d'approche pour pouvoir okay. faire une conception de site web.
OK.
Donc, c'est un peu la promesse qu'ils donnent, ces plateformes-là. Donc, c'est sûr que je connaissais ça, mais rapidement, je m'étais dit que ça ne fonctionnerait pas. Je cherchais vraiment un entre-deux entre quelque chose qui est vraiment fait par un développeur sur mesure et les plateformes qu'on connaît, peut-être Wix, Squarespace, etc. Donc, finalement, j'ai vu passer l'outil Webflow qui commençait à avoir un peu de traction, là, qui a un petit peu de popularité. Sur YouTube aussi, il y avait notamment quelques, je vais dire, influenceurs qui en parlaient, quelques graphistes qui en parlaient, designers, développeurs. Ça commençait à jaser. Donc, je m'y suis intéressé, j'ai essayé. Puis, rapidement, pour cet outil-là, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment ce que je recherchais. Parce que l'interface est vraiment un peu carte blanche. Tu peux avoir des thèmes, tu peux avoir un canevas qui est page blanche, en fait, tu sais. Et puis, tu peux vraiment comme construire ton visuel toi-même.
Mm-hmm.
Puis moi, ce qui était important et ce que j'ai retrouvé dans cette plateforme-là, c'était une autonomie. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai des clients à servir, j'ai des besoins aussi. Quand j'ai vu que j'étais en mesure de faire le processus vraiment par moi-même de A à Z, tant la charge de projet que le design, que le développement, que la mise en ligne, que même la gestion des noms de domaine, la gestion de l'hébergement.
OK, c'est un service tout inclus. Là.
Vraiment. Tu sais, c'est vraiment ça qui faisait que là, j'étais comme, OK, j'étais un peu tombé en amour avec ça, puisque là, moi-même, je pouvais juste prendre ça puis amener un projet de A à Z jusqu'à la fin.
Toi, à la base, t'es designer web? C'est quoi tes...
Ben exact. J'ai un cours de plus en graphisme, mettons, puis après ça, ben, j'ai un peu dérivé sur la conception graphique, mais pour les sites web.
OK.
Fait que ça m'allait, là, mais ça j'ai besoin de mettre en vie, là, tu sais, là, puis okay. avec les fonctionnalités que ça requiert, etc. Donc, c'est vraiment... puis les gars pourront peut-être confirmer, voir si le déclic est le même, mais moi en tant que gestionnaire d'entreprise, c'était vraiment ça. Tu sais, c'est comme... Puis en plus, je m'assurais du fait que si j'avais moins de sites web pendant une période, moins de demandes pour ce genre de projet-là,
mm-hmm.
C'était pas grave. Parce qu'en fait, je suis graphiste, je fais autre chose. J'ai pas quelqu'un à payer. Il n'y a pas de trou. Là. Fait que si j'ai plus de mandats, j'ai plus de mandats, tant mieux. Puis après ça, je dealerai avec. Mais si j'en ai pas, ben j'ai personne qui est assis sur une chaise. Là.
C'est une belle solution. Puis jusqu'à maintenant, dans ton expérience, l'interface de la plateforme, l'utilisation, le rendu,
mm-hmm.
T'es-tu satisfait?
Ben c'est certain que une plateforme comme ça va apporter son lot peut-être de limitations à certains endroits, à certaines fonctionnalités, etc. Mais pour ce que moi, j'ai décidé de faire et d'offrir aux clients, qui est, on va dire, des sites plus vitrines, corporatifs, marketing, ça cadre parfaitement dans la mission que Webflow mettait de l'avant.
Okay. Fait
que c'était vraiment ça. J'avais pas besoin à ce moment-là de commerce en ligne nécessairement. Webflow a une branche commerce en ligne, mais peut-être un peu plus limitée si on compare versus Shopify que Kev pourra justement en parler un peu plus. Mais c'était vraiment ça. Là. Donc, je tombais pile sur ce que Webflow nous promettait de faire. Puis ensuite de ça, ben tu sais, j'ai pas. T'sais, la plateforme a évolué là aussi. Là. Donc, tu sais, je suis parti avec ce qu'il y avait présentement en ligne. J'ai continué, j'ai grandi ma communauté aussi à travers YouTube, à travers Twitter aussi.
Okay.
Donc, tu sais, là, j'ai pu recevoir beaucoup d'informations de personnes qui étaient comme à un stade, je vais dire, plus avancé, qui étaient plus, tu sais, qui allaient plus loin dans ce qu'ils faisaient. Donc, je me nourris vraiment beaucoup de ça. Puis, j'ai bâti mon coffre à outils. La plateforme a évolué, a fait beaucoup d'updates aussi. Puis, il y a eu de la compétition aussi. Il y a de la compétition qui arrive très rapidement. Le marché change beaucoup. Puis, ça amène du bon aussi. Parce que, exemple, Webflow ou Shopify ou même WordPress, ils doivent regarder la compétition. Puis
ils sont tous en compétition ensemble. Ils essaient d'amener des nouveaux features.
Exactement. Donc, pour moi, ça a vraiment été un bon fit. Puis, comme je dis, pour vrai, ça a vraiment été l'autonomie de dire comme, OK, j'ai les clés pour faire ce que j'avais envie de faire puis ce que j'avais besoin de faire aussi. Là.
Ça fait combien de temps à peu près que vous utilisez Webflow chez Nabi versus avoir un programmeur?
Ça fait depuis 2019.
Quand même.
Ouais. Fait que, ouais, okay. On a à peu près une soixantaine de projets de faits.
Wow, sérieusement?
Sur la plateforme. Fait qu'on on a quand même une certaine expérience. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours mieux. Puis il y a toujours,
ouais. Hey, mais je suis vraiment impressionnée. 60, c'est... Félicitations. Ouais,
ben, en fait, c'est...
Je m'attendais pas à ça.
C'est que dans ce chiffre-là, il y a aussi le fait que Webflow change un peu la manière de travailler. Le processus n'est plus nécessairement le même. Donc, tu sais, toute la gestion du nom de domaine, l'hébergement, c'est simplifié vraiment drastiquement, je pense. Ensuite de ça, ben moi, la portion du projet que je prenais pour faire des maquettes, je vais dire statiques, exemple dans Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, etc., images.
Mm-hmm.
Des images qu'on faisait approuver aux clients. Moi, je bypass.
T'as plus à faire
complètement
ça
parce que j'ai décidé de faire mes designs directement dans Webflow.
Wow!
J'ai fait là-dessus. Peut-être que je vais me faire des maquettes à l'interne juste rapidement pour figurer la ligne graphique du site. Puis, bien entendu que quand je donne une approbation au client, on discute de la ligne graphique, mais ce qu'il voit, c'est vraiment un rendu final ou très, très final de ce que le site a l'air. Donc, les discussions ne sont pas nécessairement autour de « je n'aime pas le bouton rond » ou le bouton carré.
La personne, c'est plus... elle peut aussi naviguer puis toucher au bouton pour voir comment
exactement.
Ça fonctionne.
Ouais. Fait que c'est au lieu d'expliquer, ça serait un bouton puis ça mènerait, là, elle peut le tester puis voir où est-ce que ça mène.
Exactement. Puis les changements peuvent être rapides, très rapides. Tout le processus de la conception du site web est vraiment réorganisé. Les temps sont réajustés aussi, ce qui nous permet aussi de faire quand même beaucoup de projets.
Puis j'imagine d'être peut-être compétitif dans le marché.
Aussi, c'est sûr. Puis tu sais, on a choisi une certaine, je veux dire, pas une niche très, très pointue, mais quand même, on se spécialise, je veux dire, un peu plus dans les sites web vitrines, comme je disais tantôt. Fait que ça limite des fois le scope du projet, la grandeur. Donc, c'est ça. Puis mon autre point aussi qui était vraiment... quand j'ai vu ça, puis j'ai compris que moi, j'étais capable de le faire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais engager quelqu'un qui était peut-être pas nécessairement un développeur, puis qui va comprendre... Il y a une courbe d'apprentissage. Là, c'est définitif, il y a une courbe d'apprentissage. Mais quelqu'un qui n'était pas nécessairement destiné à ça ou qui connaît moins ça peut rapidement apprendre la plateforme puis embarquer sur des projets, nous aider.
Moi, j'aurais-tu pu?
T'aurais pu. Mais tu sais, c'est ça qui fait que après ça, ben, je suis capable de bâtir peut-être une équipe qui est multitask un peu, puis qui est capable de comprendre comment ça fonctionne. T'sais. Donc, on a Kevin, on a Jesse, on a Marc-Antoine aussi qui a touché à Webflow. Ben, après ça, on crée une dynamique, puis après ça, ben, on met des paramètres puis des guidelines pour s'entendre comment on fonctionne, bien entendu. Mais ça fait que j'ai pas nécessairement besoin de chercher un développeur précisément. Là.
Ah, bien, c'est super. Bien, ça fait un beau segue vers Kevin. Merci, Marc-André, d'avoir apporté cette vision-là de comment vous l'avez emmené ou comment vous avez choisi cette plateforme-là. Kevin, de ton côté, toi, c'est plus... garde, je vais te laisser expliquer.
Je pense que c'est bon. Je pense que c'est un peu comme Marc-André expliquait. Bien, je pense que moi, je travaillais à Sherbrooke, je travaillais avec... des développeurs, puis j'avais aussi le problème, je trouvais que j'étais vraiment dépendant de ces personnes-là. Si ça marchait pas, si je donnais pas les détails que lui avait besoin, ben ça mettait un peu en péril le projet. Puis j'avais le même dilemme. Fait que quand je suis arrivé ici, il m'a proposé de travailler avec cette solution-là, ben j'ai tout de suite embarqué, mm-hmm. vu que j'avais aussi travaillé avec des options semblables comme Shopify, j'ai aussi travaillé avec WordPress, puis là, ben, on arrivait avec Webflow, où c'est que c'est un outil qui est un peu plus développé, puis que on pouvait faire de quoi de vraiment le fun avec ça, là, puis le pousser en masse. Puis c'est ça. Fait que moi, à base, en fond, j'avais fait le site web de mes parents qui ont leur entreprise.
OK.
Fait que j'avais appris avec des tutoriels sur YouTube de la même manière qu'on le fait avec Webflow. Fait que,
tu l'avais fait sur quelle plateforme à l'époque?
J'avais fait avec WordPress. Okay. J'avais trouvé que c'était vraiment le fun. C'était vraiment difficile. Par contre, il y a beaucoup de knowledge. Ouais, c'est ça. Avec
On a mis des guillemets.
Ouais, des beaux guillemets parce que c'est vraiment quand même assez compliqué. Puis moi, quand je me suis lancé là-dedans, je connaissais que les bases de designer. Donc, c'est-à-dire de créer des maquettes puis de comprendre les codes graphiques qui existent en ce moment, disons, de l'alignement ou...
Ça doit tellement
des couleurs, des call to action, si on veut utiliser des mots ou des couleurs. Fait que c'était vraiment moi les bases que je connaissais et non vraiment la structure. Fait que de programmer ou de comprendre. Fait que là, moi, c'était un outil qui était le fun, mais qui était quand même assez compliqué parce que je connaissais pas non plus ce monde-là.
Ouais.
Mais c'est ça. Fait que après ça, là, je me suis dirigé un peu plus tard sur Shopify. J'ai travaillé, donc avant de venir ici. Que là, c'est un outil qui est vraiment optimisé pour la vente en ligne. C'est vraiment le fun aussi. Mais là, c'est plus facile, je trouve, avec ça, vu qu'il y a moins de... c'est moins ouvert, c'est un peu plus restreint, mais vu qu'eux autres, ils mettent des barèmes pour s'assurer de l'assurance qualité.
Quand tu dis c'est moins ouvert, qu'est-ce que... Là tu parles à quelqu'un qui connaît rien là-dedans.
Disons, mettons... L'autre outil que j'utilisais avant, c'était WordPress. C'est un outil qui est open source, qu'on dit. Donc, tout le monde peut créer du contenu, des applications qu'on peut utiliser.
OK.
Mais là, ça fait en sorte qu'il y en a qui vont rentrer en conflit
ensemble. L'une et l'autre.
Exact. Fait que là, s'il y en a qui créent une mise à jour, l'autre, elle ne sera peut-être pas adaptée pour ce produit-là. Fait que là, ça va créer des conflits. Puis là, ben, ça peut créer pas mal de problèmes.
OK. C'est ça qui est plus restreint.
Exact.
Ah, OK.
Tandis
parfait.
Que sur Shopify, ben là, il y a vraiment comme des barèmes où c'est que c'est l'entreprise qui vont permettre à des programmeurs d'offrir des applications.
Mm-hmm. Il y a un contrôle de qualité d'offre dans le store. Là. Donc, tu sais, c'est Shopify qui régit ce qui est disponible.
C'est pas parfait,
pour
mais c'est vraiment
personnes.
Comme... Il, au beaucoup moins, il donne mieux. Un filtre de base pour que ça soit plus facile à manipuler et tout. Donc, c'est ça. Puis quand je suis arrivé dans Webflow, ben là, ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on pouvait tout faire ou presque là-dedans. Mm. C'est peut-être moins optimisé comme on parlait sur la vente en ligne, mais pour faire un site vitrine où c'est que ça va être vraiment axé sur le design, ça va être esthétique au fond, ben là, il y a de quoi s'amuser avec ça pour vrai. Là.
Puis là, on parle à des designers, fait qu'au
exact.
Niveau esthétique,
c'est ça.
Vous
puis
êtes
en
gagné.
Plus, la manière que c'est fait, c'est vraiment proche des mêmes outils qu'on utilise en design. Fait que pour créer une maquette, ben c'est là que c'est, ça se rejoint là, justement là, la logique entre les deux. Là.
À la base, c'est prévu pour quel type? Tu sais, là, vous dites ça se ressemble à ce qu'on utilise en design. Est-ce que c'est prévu pour une clientèle comme vous, pour des designers ou pour des monsieur, madame, tout le monde? Ou...
Ben, les gars, vous pourrez peut-être renchérir là-dessus, mais tu sais, je pense que c'est destiné à une personne qui est prête à comprendre comment le web fonctionne.
Là, on parle de Webflow.
Ouais, mm-hmm. Webflow, mettons. Donc, tu sais, il y a une courbe d'apprentissage parce que c'est tu dois quand même comprendre comment le web fonctionne pour pouvoir positionner tes choses. C'est pas un drag and drop où est-ce que tu dis « je mets la photo là ». Je drague un élément texte là. Mm-hmm. C'est pas du drag and drop, on n'est pas là.
C'est... Quand tu dis de comprendre le web, c'est comprendre...
La structure,
la programmation.
Ouais, c'est ça qui est en arrière. On la voit pas parce que Webflow fait te fait abstraction de ça. En arrière, c'est du code, effectivement, mais te donne vraiment le sentiment que tu peux faire du design, mais il faut quand même que tu comprennes. Donc, ça s'adresse aux gens qui sont quand même, je pense, prêts à faire cette courbe d'apprentissage-là. Uh-huh. Mais ça s'adresse aussi aux développeurs qui sont prêts à aller plus loin, là, puis rapidement aussi, parce que c'est vraiment un temps d'exécution, je pense, qui est raccourci, qui est plus rapide. Donc, ça permet aux développeurs plus expérimentés comme Andres de peut-être réaliser des choses de façon plus rapide et autonome, mettons. Mm-hmm.
Puis si je peux embarquer là-dedans, c'est que c'est à la base, tous ces outils qu'on a parlé de Webflow, WordPress, Shopify, tout ça traduit tout ce que tu fais en code. Donc, le niveau d'abstraction vient avec la plateforme selon ce qu'elle décide, ce qu'elle veut abstraire.
Uh-huh.
Donc, pour Webflow, ils utilisent des termes vraiment rapprochés à ce que les développeurs utilisent, voire même les mêmes termes, mais que aussi les designers sont capables de comprendre.
Okay.
Ouais. Mais quelque chose comme Shopify, pas tant. C'est plus vraiment plus pour des programmeurs avec un genre de wrapper que Shopify ont développé pour que on mette les paramètres puis tu peux jouer dedans autant que tu veux.
Ok. Mm-hmm.
Mais faut que tu t'y connaisses, faut que tu comprennes la programmation, leurs termes, leur méthodologie de comment fonctionnent les choses.
Ok.
Quand c'est WordPress, c'est un peu n'importe quoi.
Ah ouais.
D'où les guillemets. Pourquoi c'est le fun? C'est parce que
c'est le pizza tout garni, là.
C'est ça. C'est quand Shopify met les paramètres, où est-ce qu'il te laisse jouer dans cette zone-là, WordPress te les donne, mais aussi un marteau pour que tu puisses les casser.
Ah, super.
Et tu vas aller où tu veux.
OK.
Donc,
quelqu'un qui s'y connaît puis qui veut être très créatif, peut-être WordPress et...
Ben oui, il y a plein d'excellentes agences qui travaillent sur WordPress, qui font un travail, je pense, probablement très impeccable au niveau du design, du code, sans aucun doute, là. Et puis, WordPress, ça reste que c'est l'outil encore très, 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 très dominant dans le marché.
Oui.
Mais je pense que ça a un peu tendance à changer.
Oui, ça change. Puis c'est ça, parce que étant donné que WordPress, c'est très facile à accéder, il y a tellement de services, il y a tellement d'agences qui offrent des sites WordPress que c'est vraiment facile de faire une mauvaise job, un mauvais travail. Parce que c'est ça, n'importe qui peut faire.
Ouais.
Webflow aussi, mais encore une fois, un peu comme Shopify, il met les paramètres.
Il
donne pas le marteau. Donc, voilà.
Kevin, je vais peut-être te surprendre avec cette question-là, mais pour toi, là, quand tu es arrivé ici, que je t'ai montré Webflow, ça a été quoi, mettons, ton moment « wow » que tu as dit « OK, le Game On, c'est vraiment un outil pour moi qui va être game changer » ou, tu sais, je suis prêt à embarquer là-dedans parce que...
Moi, c'est vraiment de le mettre sur papier, en fait. J'ai tout le temps travaillé sur des maquettes. Fait que c'est vraiment de dire « OK, là, je joue vraiment avec les vrais boutons. Je ne vais pas juste faire un bouton que je vais présenter à quelqu'un d'autre. Puis là, je peux contrôler l'interaction. »
De ne pas dépendre.
Choisir la logique au complet, comment que ça allait fonctionner, la structure. Ouais. C'est ça, moi, qui était vraiment...
Puis, tu sais, diminuer les intermédiaires comme ça, ça doit aussi diminuer, un, les risques d'erreur, puis deux, tu sais, des fois, moi, je l'avais pensé de même, lui, il l'a fait de même.
Exact.
Tu sais, ce que le client pense, ce que le designer dessine, ce que le programmeur programme, ce que, tu sais...
Ça, c'est quand même récurrent dans le modèle traditionnel où est-ce que le designer n'a pas nécessairement les connaissances d'un développeur.
Mm-hmm.
Donc, c'est bien beau comment tu l'as designé, comment tu places les choses, mais quand vient le temps de le coder... C'est l'enfer.
Ouais.
Puis surtout, tu n'as peut-être pas considéré le fait que la plupart du monde regarde ton site web sur mobile. Donc, de faire l'adaptation à ça...
Mm-hmm. Mobile first.
Souvent, ce n'est pas prévu.
Ah, donc, exact.
Quand c'est le designer qui, maintenant, doit le coder lui-même ou le...
il l'a catché.
C'est ça. Là, il comprend que, finalement, mon design, je me complique la vie pour absolument
rien. Mais c'est un peu des problèmes que j'ai eu aussi. Là. Les premiers temps, là, je me dis, OK, je pensais à quelque chose de... puis je me suis rendu compte, OK, finalement, oui, je comprends les limites maintenant de genre, est-ce que je vais me tirer dans le pied prochainement?
Ouais, c'est pour ça.
Au final, tout est possible. C'est juste une question de temps puis à quel point ça ajoute la valeur au site web.
Exactement.
C'est bien beau d'ajouter les animations et tout ça, rendre ça vraiment beau, mais est-ce que ça veut nécessairement dire que ça va convertir en vente pour ton client? Ça va amener quelque chose de plus, une valeur ajoutée à ça?
Mm-hmm.
Souvent, non. Donc...
Puis ça m'amène, Andrés, je suis un peu curieuse de savoir, toi, ton histoire aussi par rapport à ça. Bien, premièrement, ton histoire, tu sais, t'arrives de où? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, ton historique. Comment tu as rencontré Marc-André, Kevin, comment tu as rencontré l'agence? Comment tu as été en contact? Est-ce que c'est par rapport à cette communauté-là, Webflow, ou à tout autre? Puis ton utilisation aussi, que tu en fais.
Oui, donc la manière qu'on s'est rencontrés, c'était à travers Simon. Puis même pas dans le domaine du web
à
ou quoi que ce
soit. À travers lui, je sais pas. Ah ouais.
C'est Simon. J'ai rencontré Simon, en fait, puis...
Je sais pas si l'information me plaît.
Mauvais choix de mots, mais... non, c'était vraiment comme avec aucun rapport avec le design ou le web ou quoi que ce soit. Okay. On est dans l'âme, on est des gamers.
Wow. Donc,
on s'est rencontrés comme ça, puis ça a donné qu'il a vu sur mon Facebook que j'étais aussi développeur. Et je pense que c'était dans cette période-là où est-ce que vous commencez à démarrer Nabi en 2017?
Ouais, exactement. Je me souviens plus, c'est quoi les... Est-ce que c'était au début ou c'est justement au moment où est-ce que j'avais plus de développeur, Marc-André, qui
t'avais encore un développeur, je pense.
Qui avait quitté, OK. Oui,
t'avais encore un développeur, puis...
Je pense que tu nous aidais justement parce que, exemple, on avait comme plusieurs projets puis t'étais venu en backup sur certains projets.
Ouais, c'est ça.
Là, on parle de développeur, de programmeur. I need to know. What's the difference?
Il y a ça aussi qui me dérange parce que tantôt, tu avais posé la question, OK, puis tu as demandé à Marc-André s'il était designer web. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de misère avec ces termes-là parce que ça veut tellement plus rien dire maintenant.
Uh-huh.
Parce que, oui, tu es designer web, mais tu es aussi, mais tu n'es pas programmeur, mais développeur, c'est ouais. comme un peu les deux choses. Donc,
ouais.
j'essaie d'éviter ça complètement. Puis, je suis quelqu'un qui fait des sites web.
Mais qu'est-ce que tu aimes mieux? Y a-tu un terme que tu aimes mieux ou. Tu sais, dans ta bio LinkedIn, c'est quelqu'un qui fait des sites web?
Ma bio LinkedIn que j'ai pas mis à jour depuis 5 ans.
On peut s'en parler.
Donc, c'est programmeur. Donc, c'est programmeur, v'là 5 ans.
Programmeur, v'là 5 ans, avant que j'arrive à cette réalisation-là.
Exact.
Non, développeur
c'est,
ou consultant.
C'est une belle réflexion, ouais.
Consultant web, parce
ouais,
que
ouais.
c'est ça.
Mais, c'est une parenthèse qu'on fait, mais c'est effectivement vrai que les rôles sont en train
d'élargir,
puis... Le gap entre chaque est vraiment en train de blurrer. Là, c'est ouais. comme c'est en train de merger ensemble. Là, là.
Donc,
mm-hmm.
donc,
pour certaines personnes, je pense. Pour d'autres, c'est peut-être plus précis. Là,
mm-hmm.
Je pense que dans le modèle traditionnel, c'est pertinent de savoir, OK, toi, t'es le designer, donc toi, t'es le développeur, je sais à qui parler pour selon mon problème.
Ouais.
Mais justement, quand c'est un peu plus fluide, un peu plus comme une personne s'occupe de différents départements, c'est difficile à t'identifier. Donc, appelle-moi exact. Par mon nom à la place.
J'aime ça. C'est plus humain.
Ouais.
OK. Donc, tu as rencontré Simon
oui.
qui faisait du gaming.
Oui, on était rendu là.
Oui.
Donc, c'est ça. Donc, là, on a commencé. J'ai travaillé un peu sur des projets, je pense, en WordPress. Puis,
ouais, exact.
Oui, je t'ai contacté récemment parce que, justement, je commençais à embarquer dans Webflow. Puis, je commence aussi à bâtir mon agence. Puis, encore une fois, quelque chose qui était très pertinent que tu as mentionné, c'est que. T'as pas besoin d'engager quelqu'un puis de trouver de la job pour lui juste parce que t'as besoin de le payer ou quoi
ouais.
que ce soit.
Ouais.
Donc, les forfaits mensuels, maintenant, ça commence à être la grosse mode. Donc, parenthèse.
Ouais.
Donc, mais c'est ça. Là, on a commencé à connecter. Puis j'ai vu aussi que sur Twitter, on suit les mêmes personnes. Puis on suit les mêmes personnes. On connaît les mêmes technologies. Donc, on a pu, dans notre appel, on a pu connecter facilement. C'est ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai sa perspective de designer qui embarque dans le domaine de développement de sites web. Et moi, je suis un développeur qui embarque dans le domaine de no-code.
Wow.
Et on avait la discussion brièvement, mais c'est important de mentionner que pour un programmeur qui a eu les formations en programmation, vraiment from scratch, codé à la main, chaque...
Comment tu trouves ça?
Chaque touche et tout ça, pour moi, c'est magnifique.
Ah oui?
Mais au début, je ne croyais pas ça.
Uh-huh.
Parce que... Comme n'importe quel développeur dans le temps quand Webflow est sorti ou quand c'était rendu populaire WordPress avec Elementor, puis le drag and drop, puis le Squarespace et tout ça, on se disait, oh, c'est pas des vrais développeurs, c'est pas des vrais sites web, c'est pas...
Il y a beaucoup
ça marchera
ça.
Pas,
c'est pas clean, c'est pas...
Il y a beaucoup ouais. ça, la culture de justement, de comme... je sais pas comment nommer ça, mais...
Si c'est trop facile, ça marchera pas bien.
C'est ça, tu sais, de comme... les old-timers, tu sais, c'est genre, c'est classique, c'est comme ça que ça fonctionne, ça sera pas clean, ça sera pas...
C'est ça. Mais au final, quand j'ai arrêté de penser ça, puis j'ai commencé à comprendre un peu pourquoi les gens utilisent ces outils-là, puis surtout Webflow, parce que je peux comprendre l'argument de WordPress, parce que le code qu'ils génèrent en arrière, c'est vraiment... c'est de la boîte. Mais Webflow le fait extrêmement clean, puis surtout, c'est ta responsabilité. Donc, si tu connais ça, les bonnes pratiques, les bonnes méthodologies, Webflow te le permet.
Mm-hmm.
Donc, quand j'ai remarqué ça, que c'est vraiment le même genre de code que j'aurais écrit par moi-même, mais que ça me prend deux fois moins de temps, c'est la vie. Pourquoi je fais pas ça?
Ben oui.
Et donc là, on embarque dans un autre aspect où est-ce que, là, Marc-André t'a dit que vous vous spécialisez ou vous vous nichez dans les sites vitrines.
Mm-hmm.
C'est là le problème avec moi, parce que moi, je fais autre chose que ça. Je fais des fonctionnalités des sites web un peu plus poussées.
Okay.
Donc, qui nécessitent une fonctionnalité comme créer des portails d'usagers, créer des l'authentification, okay. Des fonctionnalités que tu ne peux pas juste cliquer sur un bouton puis merci la régie.
Puis ça, tu es capable de le coder en surplus dans Webflow?
Mais je pense que justement, l'arrivée d'outils comme exemple Webflow,
mm-hmm.
avec une vision différente de comment on conçoit les sites web, va apporter son lot d'applications qui va ressembler un peu à ça, mais pour des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Tu sais, probablement que tu connais Wiz,
oui.
qui est fait par FinSuite.
Mm-hmm.
Ça, c'est juste une parenthèse, mais en fait, c'est une entreprise, une agence qui était très spécialisée sur Webflow, qui a décidé d'investir dans la communauté et dans les produits. Donc, ils ont acheté une petite compagnie qui faisait une plateforme qu'on pouvait greffer à Webflow afin de faire des sites web comme des portails, des memberships, affaires-là, mettons.
Mm-hmm. Okay,
donc,
eux ont racheté ça.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, mm-hmm. c'est que je pense que il va y avoir un lot de plateformes qui va exploser pour vraiment aller plus loin, mais en conservant le mindset no-code, low-code, je veux dire.
Low-code, oui.
Parce qu'il faut quand même que tu comprennes la
logique.
La logique.
Ouais.
C'est beaucoup ça, ce genre de fonctionnalité-là. C'est pas je place des boutons ici et tout comme ça.
Mais qui va te proposer des shortcuts de temps. Là. Mm-hmm. Dire comme, mm-hmm. écoute, ça, là, ça t'aurait pris là, sur mesure, mm-hmm. tu sais, vraiment un bunch de temps. Maintenant, ouais. Tu peux le faire en 30 mm-hmm. minutes. Là.
Exact. Puis quand tu dis c'est compliqué de programmer, exemple, les portails clients ou tout ça. C'est compliqué, mais ça se fait. C'est ça que tu fais.
C'est compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Boom,
ben présentement.
Mmh. Présentement. Ben, parce que tu as besoin de base de programmation pour ça. Puis, tant que tu n'as pas fait un, tu ne connais pas c'est quoi,
exactement.
Qu'est-ce qui peut aller mal. S'il y a comme des données sensibles qui arrivent, quand tu n'es pas un développeur et que tu n'as pas cette expérience-là, il y a des risques de sécurité ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis c'est pour ça que les plateformes, justement, qui sortent, qui sont capables de s'intégrer à Webflow, il faut qu'ils fassent attention aussi de la manière qu'ils sont intégrés. Puis aussi, le pont qui se fait entre Webflow et XYZ technologie qui va s'intégrer à ça. Parce que, étant donné que ce n'est pas sous le même chapeau, Webflow peut décider d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle politique qui empêche un autre service ou une autre plateforme de fonctionner.
Huh.
Donc, c'est un peu ça, j'ai ma réservation dans ce camp-là, parce que si je commence à concocter une plateforme ou un produit qui est dépendant de 3, 4, 5 services différents, aussitôt qu'il y en a un qui plante, toute mon application plante.
Ah non.
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution nécessairement parfaite, parce que, tu sais, comme on l'a un peu brièvement parlé, mais tu sais, WordPress, s'appuie quand même sur un peu la même mécanique de plugin aussi pour te rendre loin dans certaines fonctionnalités. Mm-hmm. Tu relies quand même sur un paquet de fonctionnalités. Puis du jour au lendemain, s'il y a un développeur qui ne fait pas de mise à jour ou qui offre finalement une mise à jour, ça fait planter le reste.
Exact.
Combien d'histoires on a entendu qu'il faut dire aux clients de ne pas mettre à jour leur WordPress parce que ça va faire planter les plugins qui, eux, ne sont pas prêts à ce que WordPress a mis de l'avant comme mise à jour. Ça n'a juste aucun sens. Là.
Non.
Donc, de là, l'importance de l'écosystème puis de connaître les enjeux puis la vision long terme de ta plateforme, c'est important.
Mm-hmm.
Et j'allais dire quelque chose, mais j'ai un blanc.
Et t'as fait pendant combien de temps des sites WordPress, puis ça a été quoi? Comment t'as découvert Webflow, puis ça a été quoi le déclic de dire, OK, j'embarque dans le train, là, mettons?
OK. Bien, pour du WordPress, j'ai commencé à en faire en 2015, même pendant que j'étais au cégep, donc 2013-2014. Mais comme si j'étais monsieur, madame, tout le monde qui voulait se pratiquer en WordPress. Pas de programmation encore. Mais quand j'ai commencé à travailler en agence, là, j'ai fait du WordPress en volume. Donc, on achetait un thème, on faisait un site 2 jours max et on embarque sur un autre. Donc, vraiment, les 60 clients que tu as eu sur Webflow, probablement qu'on en a fait 60 en 2 mois. Okay. Donc, ouais. c'était okay. du volume, puis je remarquais que c'était lourd, c'était lent, puis on prenait vraiment pas, on faisait pas attention sur la qualité de ce site-là.
Le site est fait, merci, bonsoir.
C'est ça. Puis le client était content au final, ça répondait à son besoin. Souvent, c'était juste des sites vitrines vraiment très simples, rien de, comme pas d'achat en ligne ou quoi que ce soit. Donc, parfait, si le client est content, ça va. Mais ensuite, j'ai eu le cas inverse, où est-ce qu'on a travaillé sur un site WordPress pendant 6 mois, totalement custom, et... Depuis ce temps-là, je n'ai pas entendu de problème de plugin ou quoi que ce soit. C'était un site quand même assez compliqué dans le sens beaucoup de fonctionnalités. Mm-hmm. Mais c'était clean. Mais ça a pris comme 6 mois. Donc, j'ai eu les deux...
Qu'est-ce que tu as préféré?
Honnêtement, les thèmes.
Ah ouais?
Ouais.
Un après l'autre?
Ouais. Parce que, ben juste moi, personnellement, j'ai de la misère à rester sur un projet trop longtemps.
Ouais.
Tu changes d'univers complètement.
Je comprends très bien.
C'est ça. Ouais. Puis c'était difficile pour nous parce que dans ce temps-là, on avait au moins 2, peut-être 3 projets en même temps. C'était le seul projet qu'on avait en WordPress. Puis quand j'embarquais sur les autres projets, j'étais content parce que ça ne me tentait pas de travailler dans du WordPress. Okay. Au moins, quand c'était avec les thèmes... C'est facile, je me casse pas la tête. C'est vraiment un site simple que je peux juste faire ça, clencher ça en 24 heures, puis ne plus jamais entendre parler. De là, où est-ce que quand je suis arrivé à connaître Workflow, je pense que c'était sur Twitter, en plus, que j'ai vu que ça commençait à être mentionné par les personnes que je suivais.
Là, je m'excuse, mais vous parlez à la fille de médias sociaux, ça fait 3 fois que j'entends Twitter. C'est maintenant X.
Ah oui.
Oh,
X.
Man. Je n'aurais même pas pensé.
Moi non plus.
Je parle jamais comme ça.
Wow.
Oui, Twitter/X.
Non, on va conserver le mot Twitter.
Oui, c'est ça.
Ah oui, c'est trop naturel. C'est beau.
Mais c'est pertinent parce que je pense que la communauté de développeurs, designers est très, 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 très présente sur X.
Oui. Non, 100%. Effectivement. Marc-André.
C'est fou parce que, mettons, exemple, ici, de façon générale au Québec, Twitter est mort, il est peu absent.
Il n'est même pas né, en fait, personne ne l'utilise.
Ouais, ben, je pense que tu sais, peut-être la sphère médiatique l'utilise un peu, quand même.
Ah, Hydro-Québec, il l'utilise bien.
Ouais.
Puis toi, tu es à Montréal, il y en a un peu plus, là, tu sais.
Moi, je les suis, mais je ne les suis pas.
Mais je pense qu'aux États-Unis, Twitter est vraiment, même probablement en dehors des États-Unis, mais Twitter est quand même vraiment plus gros qu'on pense et très actif, beaucoup plus qu'on pense ici au Québec.
Oui, ouais.
Je pense que tout le monde ici, on est comme Twitter, c'est mort, là, ça marche pas. Mais la communauté de design, de développeurs, comme André se dit, est vraiment très explosée, très active. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Honnêtement, c'est ma plateforme où est-ce que je sais que quand je vais ouvrir Twitter, je suis prêt à apprendre beaucoup plus que je suis prêt à recevoir. Là.
Ouais. Est-ce que Webflow, c'est américain?
Oui, San Francisco.
Ouais, ça explique.
San Francisco?
Oui.
Donc, c'est là, justement, que j'ai été mis au courant que Webflow commençait à exister, qu'ils ont commencé à le pousser. Quand il venait de sortir, j'avais mes réservations parce que, un autre, tu sais, autre Squarespace, un autre Wix, un autre Weebly. Mais là, il disait comme, c'est plus pour les designers, développeurs. Donc, ça va un peu plus loin. Comme. Ouais, mettons. Là, 2 ans, 3 ans plus tard, là, je continue à le voir. Puis là, même les développeurs que moi, je suivais pour la programmation, commençaient à l'utiliser. Pour leur projet perso.
C'est fatiguant, ça.
Même pour les projets perso. Ouais, c'est ça. Et comme des développeurs qui ont toujours juré que par du code, maintenant utilisent du Webflow pour leur projet perso. C'est impossible. Donc là, je commence à regarder, puis OK, je comprends.
Ah, wow.
Je comprends, j'ai du fun. Mais là, ensuite, j'ai embarqué dans cet univers où est-ce que Webflow, c'est partout, sur Twitter, mais j'ai la réalisation que c'est juste aux États-Unis. Ici, j'en entends pas parler du tout.
Exact.
C'est très rare. Ouais, ici, c'est encore WordPress.
Ouais.
Squarespace, c'est quand même étrangement populaire. J'en ai vu très souvent ici.
OK.
Webflow, très rare.
Je n'avais pas entendu parler ou presque. À l'Uni, on avait survolé le sujet avec des amis, mais c'est tout. Là, genre, c'était nada. Là, on n'entendait pas parler. C'était tout le temps WordPress ou Shopify. Tout le temps.
Puis ça, c'est un des avantages aussi parce qu'à l'université, quand j'ai fait ma première année et tout ça, ils m'ont enseigné des concepts qui n'étaient plus vraiment valides dans le marché du travail.
Ça bouge tellement rapidement.
Dans le domaine de la technologie, surtout dans cette époque-là, tu sais, ça.
Ouais.
Il y a une nouvelle technologie qui sortait aux 6 mois quasiment. Et quand j'ai commencé à travailler avec mon mentor, justement, avec qui j'ai pu travailler, développer mes connaissances un peu plus, il me partageait toutes ses connaissances, toutes ses ressources et tout ça. Puis il me disait tout le temps, dans 3 mois, je vais te renvoyer une nouvelle liste.
Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais ça n'a pas...
100%.
Puis maintenant, est-ce que tu utilises 100% Webflow?
85%.
OK.
J'ai encore du custom parce que, étant donné que je connais les limitations de Webflow, aussitôt que j'ai besoin d'une fonctionnalité que je sais qu'il n'existe pas là-dedans, à moins que je fasse un peu le Frankenstein,
ouais,
j'opte pour une solution custom.
Tu ne vas pas aller la programmer dans ce qui est possible de faire dans Webflow. Tu vas complètement partir from scratch à côté.
Oui. Ben, okay. From scratch. J'ai déjà mes propres procédures, mes propres templates, si on veut.
Oui, oui.
Mais oui.
OK. Mm-hmm. Puis pourquoi?
Par habitude, puis par familiarité, je te dirais.
OK.
Donc, si j'ai besoin, si demain tu me demandes, si aujourd'hui tu me demandes de me développer un portail client from scratch, tu sais, j'en ai un que je peux te faire en 2 heures.
Ouais.
Parce que je l'ai déjà fait, je ne sais pas combien de fois.
Mais est-ce que tu pourrais reprendre? Parce que tu sais, je sais qu'il y a une petite partie qui peut être programmée quand même. Tu sais, c'est pas 100% no code. C'est low code, comme on en parlait tantôt.
Mm-hmm.
Y aurait-tu un avantage ou justement ça risque de créer des bugs? Ou
Encore une fois, ça dépend du.
Les besoins du client.
Les besoins du client, puis les.
OK.
La projection que le client a de son projet aussi.
Mm-hmm.
Tu sais, comme tantôt, tu parlais d'avoir en tête quand même les limitations de la plateforme pour le long terme, moyen long terme.
Mm-hmm.
Puis c'est là que ça rentre en ligne de compte aussi. Tu sais, il faut vraiment que la prise de besoin soit bonne pour vraiment bien cibler quelle plateforme utiliser ou juger si tu passes ton tour ou si tu passes pas ton tour non plus. Mm-hmm. Fait que tu sais, moi, nous, on le sait pertinemment où est-ce qu'on se situe, puis dans les briefs clients, on est rarement, je pense, à côté, puis je suis capable de dire on passe pas. Donc, c'est ça. Mais tu sais, justement, exemple, la limitation qui était le commerce en ligne, on a eu des demandes, puis avec l'arrivée de Kevin qui connaissait un peu Shopify, on a eu certaines demandes parce qu'on disait, on peut pas le faire dans Webflow, est-ce qu'on le fait dans Shopify, tu sais? Après ça, c'est là. Tu bâtis un nouvel apprentissage, puis tu découvres une nouvelle plateforme parce que ça répond à un besoin, puis ça répond à ce que tu attends de ce besoin-là aussi, puis comment tu peux le travailler. Donc.
Puis, tu sais, on mentionne toutes sortes de différentes technologies et tout. À la base, si un client te demande j'ai besoin d'un site, tu peux utiliser n'importe quoi.
Ouais, lui, il ne sait pas, là. Tu sais, lui, il veut un site.
Exact.
Donc,
là, ça devient un peu ta responsabilité parce que si tu y vas, OK, let's go, je te fais un site, disons WordPress. Puis là, 3 mois, 4 mois plus tard, ils te mentionnent « Ah ouais, j'aimerais ça, avoir un portail client, puis la vente en ligne et tout ça. » Puis là, va falloir migrer de WordPress, va falloir utiliser une autre plateforme.
Ah.
Ouh, là, t'es fait de poignée.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est aussi...
Puis là, faut que tu recommences au complet.
Souvent, oui. Puis ça, c'est
très rare que tu peux recommencer, tu sais, comme prendre des éléments puis les envoyer ailleurs. Là, faut souvent que tu recommences.
Hein. Ça prend... C'est possible, mais c'est juste ça prend... quasiment le même nombre de temps que si tu commençais from scratch. Puis je sais pas si par expérience, Marc-André, tu as vécu la même chose, mais c'est les pires projets.
Quand tu as des roadblocks, mettons comme ça?
Ou que tu dois faire l'immigration, je pars de WordPress puis j'aimerais le retransférer dans Webflow, par exemple.
Ouais, ça nous est pas... Le scénario nous est pas encore arrivé si souvent.
OK.
Mais c'est sûr qu'on en avait un où est-ce que le design est fait dans WordPress. Tu sais exactement qu'est-ce que tu as à faire. Tu reproduis ça dans Webflow, puis ça va quand même généralement
très... Fait que t'es reparti à zéro dans Webflow.
Oui, c'est sûr. Mais tu sais, comme le site web était live, l'arbo est fait, etc. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça... c'est ça. Ça dépend c'est quoi les projets, puis c'est quoi les détails que tu as à faire aussi. Là, donc...
Kevin, une petite question. Toi, en tant que... Tu sais, on a 2 entrepreneurs à leur compte ici. Toi, en tant qu'employé, quand on t'a dit, là, tu vas commencer à faire des sites web, t'étais-tu... Puis même encore aujourd'hui, t'étais-tu... super, j'ajoute une corde à mon arc où à chaque fois, c'est pas ma job, mais je vais le faire. Tu sais, c'est quoi ta perception par rapport à ça?
Je pense que... Ça va être drôle à dire, mais je pense qu'il faut être un peu kamikaze. Genre, c'est de se lancer, vu que comme... C'est tout le temps des trucs nouveaux, c'est tout le temps l'évolution. Fait qu'il y a tout le temps de l'apprentissage.
Uh-huh.
Puis faut que tu aimes ça, genre avoir des casse-têtes, là, comme essayer de mettre les morceaux aux bonnes places, puis de comprendre. Puis au bout de la ligne, faut trouver la solution. Fait que c'est de faire des recherches, tester des trucs. Puis moi, j'adore ça, là, personnellement. Là, je trouve que c'est stimulant. Chaque jour, justement, je rentre, puis faut que je trouve le problème. J'aime ça. Moi, je carbure à ça. Là,
t'as l'air d'aimer ça.
Je pense que justement, ça développe
Parce que quand ça marche, c'est écœurant, là. C'est ça, le fun. Ouais. Ouais. Quand ça marche pas, là, OK, oui, il y a des trucs un peu moins le fun.
Quand
mais...
ça marche pas, on appelle le développeur. Pourquoi?
C'est ça. Mais quand ça marche, c'est vraiment fou, là.
Ça développe vraiment ta versatilité, là. Tu sais, ben, tu l'as dit, là, t'ajoutes une nouvelle corde, là, tu sais, là. Fait que je pense que, tu sais, pour chaque personne, vu que la porte d'entrée est beaucoup plus grande maintenant, ben, t'as l'occasion vraiment de mettre ça dans ton coffre à outils, puis, tu sais, après ça, tu ressors, disons, Kev, il prend un chemin différent, ben, il va avoir ça dans son bagage quand même, là, parce que, justement, ça a été, je vais dire, pas si complexe à apprendre puis à manipuler aussi, là, donc...
Ouais.
Puis je veux quand même faire une parenthèse, tu sais, on parle des développeurs, mais c'est pas quelque chose qui est en voie d'extinction non plus, puis c'est pas vers là qu'il faut aller non plus. Tu sais, dans le sens que le but, c'est pas de pousser les développeurs ou programmeurs out of the game, mais c'est plus de leur laisser peut-être un champ d'expertise vraiment plus poussé, là. Tu sais, qu'ils puissent, eux...
Pour développer des outils.
Ouais.
Que vous pouvez...
Oui, c'est ça, exactement.
Tu mais t'sais, t'sais, entre les deux, là.
Un programmeur puis un développeur, je pense que tu pourras peut-être confirmer, mais tu sais, aime vraiment des trucs qui vont loin, qui, tu sais, c'est... Tu sais, des sites vitrines, je pense pas qu'ils sont excités de faire ça, tu comprends-tu? Tu sais, puis là, nous, on peut reprendre peut-être un peu ce exemple, ce marché-là qui est comme plus visuel, plus facile peut-être un petit peu, tu sais. Donc, on commence avec ça, mais tu sais, le but, c'est pas de pousser des gens hors du métier nécessairement ou hors de la sphère web. C'est genre juste les rôles puis les métiers vont genre juste comme transitionner, je pense, un peu, puis avoir différents chapeaux, là. Avec le processus qui change, puis les applications qui arrivent très rapidement. Là.
Exact. Puis, tu sais, tu parles de ce qui s'en vient dans le futur, ou ce qui, tu sais, est-ce qu'on les met de côté, est-ce qu'on les intègre, ou est-ce qu'ils doivent se mettre de côté? Est-ce que un d'entre vous avait une vision du futur des outils no ou low code comme ça? Tu sais, qu'est-ce qui est à venir selon vous dans 5 ans. Le futur, là, loin, c'est quasiment 2 ans ou 3 ans.
C'est un peu dur parce que, comme on dit tantôt, ça bouge tellement vite. Là, surtout, on le voit là dernièrement, juste avec les AI qui sont rentrés dernièrement. L'intelligence artificielle a boosté tout l'univers technologique. Puis, un peu de la même manière que nous, on travaille avec des outils low-code, ben, travailler avec des AI, ça nous permet d'utiliser des codes que... On n'est pas nécessairement des programmeurs, des codeurs, puis on peut comprendre la logique ou juste la communiquer avec des phrases, puis avoir un simple code, mais qui peut tout changer.
C'est-tu toi, tantôt, micro-fermé, que tu disais que des fois, tu arrives, tu es bloqué, puis tu vas dans l'AI pour te chercher une ligne de code pour être capable de continuer.
Exact.
Hey, c'est fou quand même. Je veux dire, justement, on se parle de vision dans 5 ans, mais là, 5 ans, jamais on aurait pu penser que ça serait possible.
Oui, exactement. Je pense que ça va être vraiment... je pense que les outils vont juste comme aller en se simplifiant quand même beaucoup. Là. T'sais, en fait, ce qui est un défi, c'est de rendre l'interface intuitive pour rapidement savoir quoi faire, comment le faire aussi. Là. Donc, tu sais, exemple, Adobe qui a acheté Figma 20 milliards.
Quelque chose comme ça, oui.
Mm-hmm. Une fortune, mais tu sais... Figma, à la base, c'est une application de maquette statique. Là. Mais tu sais, c'est sûr que dans un futur, probablement très rapidement, on va voir Figma qui va sortir comme un outil de conception web. Là. Ils sont déjà en train de mettre les briques, brique par brique, tu vois, les features qu'ils mettent rapidement. Puis demain matin, ils vont sortir comme un nouveau compétiteur à Webflow et etc. Là, à tous les designers qui veulent concevoir des sites web, là, mettons. Il y a Framer, tu as entendu parler un peu?
Oui.
Même chose. Framer était à l'époque, voilà, 3-4 ans, une application de maquette statique et de prototype où est-ce que tu pouvais envoyer, faire des petites animations pour envoyer à ton client, regarde ce que le bouton va faire, regarde ce que les images vont faire. Puis le marché était saturé déjà d'applications de maquette statique avec XD, Sketch, Figma, etc. Ils ont décidé de vraiment changer carrément leur modèle d'affaires et ils sont devenus une plateforme de conception web. Mais avec l'interface de ce qu'ils avaient avant. Là.
Mm-hmm.
Mais ils ont juste repensé l'outil, leur mission, ce qu'ils voulaient faire. Puis maintenant, c'est vraiment une application... C'est vrai, on parlait de la porte d'entrée. Là. Webflow a une courbe d'apprentissage beaucoup plus élevée qu'exemple Framer. Donc, je pense que ça va juste comme baisser. Il va y avoir un ménage aussi. des acquisitions probablement, mais je pense que dans un à court moyen terme, ça va être vraiment comme en plus comme
Mais c'est de la même manière que Webflow. T'sais, Webflow a commencé à un certain niveau, puis il rajoute.
Ouais. Pis, sans cesse.
T'sais, là, on parle de Webflow, mais comme il faut faire attention pour ne pas tout mettre nos œufs aussi dans le même panier nécessairement, parce que ça reste que, exemple, c'est une plateforme fermée, donc pas propriétaire. Si eux tirent la plug demain matin, comme Andrés a mentionné, t'es dépendant de ça. Puis s'il y a un compétiteur qui arrive demain matin, ben il faut quand même que tu gardes tes yeux ouverts à dire comme OK, y a-tu un potentiel switch qu'on peut faire, ou tu sais, on jumelle ça, ou tu sais, il faut le tester un peu avec des projets personnels ou fictifs pour juste voir ce que ça fait, les limitations, etc. Donc le web, il est genre en train de changer de manière incroyable.
Hey, mais en tant qu'utilisateur, là, t'as-tu des garanties? Ou c'est un peu comme les entrepreneurs, si tu mets la clé dans la porte, t'en as pour 5 ans à être obligé de garantir la maison, ou
Ben, c'est sûr que, tu sais, des grosses entreprises comme ça, à grande échelle comme ça, vont prendre les... Si ça devait arriver, là, vont prendre les moyens pour offrir une certaine transition, j'en suis convaincu.
Puis, trop gros, je suis
persuadé
aussi
que le jour, c'est qu'il y en a un qui va couler, l'autre va racheter pour se servir de ces outils-là. Là, je pense qu'il peut savoir survivre quand même de cette manière-là. Là.
Exact.
Great! Mot de la fin?
Ben... Les gars pourront peut-être... mais je pense que... En tout cas, pour moi, là, vraiment, là, cet épisode-là, c'était comme juste pour discuter de comment les processus changent avec l'arrivée des plateformes vraiment plus user-friendly qui compressent un peu le temps de travail que tu as à mettre aussi. Là, donc, puis tout ce que ça vient avec. Là. Moi, c'était vraiment ça.
Mm-hmm. Je pense que c'est pertinent de reconnaître que les choses changent très rapidement et il faut s'adapter. Il faut l'accueillir, ne pas avoir peur et se résilier à ce qu'on connaît.
Mm.
Et essayer le plus possible de continuer à apprendre puis de s'adapter.
J'aime ton attitude.
Merci.
Kevin?
J'ai pas grand-chose à rajouter. Là. Les deux, vous avez vraiment comme bien résumé ce que j'aurais dit. Là.
Ils font une bonne job. Hein? Ben, super, ça a été le fun de jaser. Moi, j'en ai appris beaucoup.
Yep.
Cool. Beaucoup plus que je pensais. Mm. C'est... Comme Kevin dit, c'est vraiment le fun. Yeah, Andrés, ça m'a fait plaisir de te rencontrer aussi.
Pareillement, merci.
Peut-être qu'on aura la chance... Voyons, je suis en train de manquer de voix. Une chance que ça achève. Peut-être qu'on aura la chance de se reparler...
Absolument.
Ben oui. Prise 2.
Prise 2.
À Montréal, la prochaine fois.
Ouais. Ah, moi, j'y vais une fois de temps en temps. J'ai aucun problème.
Ah, parfait. Parfait. On louera un studio.
Parfait, ça. All right. Merci.
À bientôt.
Yes, merci.